Mes chers amis, à l'occasion du cinquantenaire que nous célébrons, il ne m'appartient pas, vous le savez, de vous faire une relation du développement remarquable qu'a pris dans ce demi-siècle notre société, ni d'essayer le panégyrique de ses fondateurs. D'autres comme moi, qui les ont mieux connus, s'en chargeront peut-être.
On est en dehors de la mémoire. Et à un moment donné, le fil est coupé. Et si on est avant la coupure, on est au temps préhistorique. Que ce soit par une trace écrite ou même la mémoire, la tradition orale. À partir du moment où la tradition orale ne nous apprend plus rien, on est là véritablement dans une zone toute noire où il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui filtre. Et c'est à ce moment-là que, véritablement, qu'on est dans la préhistoire. Donc c'est à la fois l'étude de ce temps complètement révolu sur lequel on n'a plus aucun contact, et en même temps qu'on aborde avec des questions très actuelles, parce que finalement la seule façon, je crois, qu'on a de véritablement comprendre, reconstruire ce passé entièrement détruit, entièrement évaporé, c'est véritablement de l'investir avec des idées, des questionnements, un langage qui est le langage tout à fait contemporain.
Je me sens moins incapable de vous parler de l'étonnante transformation de notre perspective sur la préhistoire humaine au cours de ce demi-siècle.
Si on regarde ce qui se passe au cours et au milieu du 19e siècle, concernant la mise en place de la préhistoire, la façon dont avant même d'être une discipline avec des praticiens, une réglementation, des enseignements, des lieux, des institutions, une idée, c'est un concept. Cette idée de préhistoire, d'un passé préhistorique de l'homme, elle se met en place en plusieurs temps. Le premier élément important, c'est l'établissement de ce qu'on a appelé l'antiquité ou l'ancienneté de l'homme. Donc la première question, c'est de pouvoir affirmer sur des bases scientifiques, bien sûr, et non plus philosophique, puisque les origines de l'homme, l'ancienneté de l'humanité, c'est des choses qui sont très anciennement, qui dans les temps historiques sont connues chez des auteurs anciens, des auteurs aussi bien grecs que latins, chez les gens qui au Moyen-Âge qui étudient des cosmogonies, etc. On a tout un bagage philosophique et purement réflexif sur les origines de l'humanité. Ça, c'est une question qui a de tout temps été abordée. Au XIXe siècle, ça va, on va dire, quitter le domaine de la philosophie pour entrer dans le domaine de la science, et d'une science qui est en train de se mettre en place autour notamment de la paléontologie, de l'histoire naturelle. Et à ce moment-là, la question de l'ancienneté de l'homme intègre ce domaine de la géologie, de la paléontologie. Fin des années 1850 ou milieu des années 1860, il n'est absolument pas question d'évolution de l'homme, il est question d'ancienneté. Donc on sait par la paléontologie, les travaux par exemple de Georges Cuvier au Muséum d'Histoire Naturelle, au Muséum Royal d'Histoire Naturelle à l'époque, qu'il y a des animaux dits fossiles, donc des espèces disparues, qui ont existé anciennement, qui sont différentes des espèces actuelles, par exemple le mammouth par rapport à l'éléphant, l'ours des cavernes par rapport à l'ours actuel, etc. Une partie des naturalistes, sur la base de découvertes faites notamment dans le Midi et en partie aussi en Dordogne, vont dire qu'il a existé un homme fossile, tout comme il a existé des éléphants ou des ours fossiles, et que cet homme-là, donc, on va dire, peut être attribué au temps d'avant l'histoire, au temps anté ou préhistorique. Et donc ça, ce sera vraiment la première étape. Et une fois que donc cette question de l'homme fossile, ou homme antédiluvien, ou homme antéhistorique, ou homme préhistorique, est résolue, on est donc, on va dire, à la fin des années 1850, effectivement, très vite, il y a Darwin qui publie donc son Origine des espèces, puis un bouquin qui est mal traduit en Descendance de l'homme, en fait son bouquin sur les origines de l'homme. Et donc très rapidement, un certain nombre de naturalistes, évolutionnistes, vont intégrer la préhistoire, donc l'étude de l'homme préhistorique, au modèle général qui est le modèle de l'évolutionnisme.
On pourrait certes écrire toute une bibliothèque sur un tel sujet, et je n'en tenterai qu'un très modeste raccourci, ou mentionnant rapidement les résultats qui, grâce à des méthodes de plus en plus rigoureuses, ont permis de corriger maintes erreurs initiales et d'atteindre sur plus d'un point des résultats importants et d'en espérer bien d'autres. Il y a un demi-siècle, on pensait qu'un anthropopithèque du tertiaire moyen s'était mis à utiliser des pierres naturelles en les fracturant par le feu, tenait, ou par des coups, puis cournis. On se croyait capable de reconnaître son travail élémentaire ou celui de ses descendants dans une foule de cailloux naturels simplement aménagés, les éolithes. Et plus d'un pensait même y trouver la preuve que certains d'entre eux témoignaient grâce à de légères retouches. Puis venait le chelléen, où régnait l'outil biface manuel, 10 coups de poing, grossièrement taillé sur les deux faces au percuteur de pierre.
Gabriel de Mortillet, donc, qui est le grand préhistorien français du dernier tiers du XIXe siècle, lui-même il écrit que c'est pas pendant la fouille, au moment où on est dans la fièvre de la découverte, qu'on peut faire un travail sérieux. C'est une fois qu'on est rentré dans son cabinet d'études, qu'on a ses collections sous la main et qu'en toute sérénité, on peut rentrer dans l'étude scientifique de ces éléments archéologiques. C'est vraiment totalement l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui en tête. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire un travail scientifique. Donc c'est effectivement un archéologue de cabinet et c'est quelque chose qui se met vraiment en place avec comme outil cette analyse évolutionniste, enfin de cet évolutionnisme culturel, au moment où on a en tête qu'on peut, sur des simples critères morphologiques, définir l'ancienneté de collection, les anciennetés d'objets. Et ça va durer jusqu'au début du XXe siècle, où là, il y a une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération de préhistoriens, parmi laquelle on trouve l'abbé Breuil, mais il n'y a pas que lui, il y a un état d'autres personnes. Et à ce moment-là, on va, d'une certaine façon, revenir un peu en arrière, revenir à la stratigraphie, et on va être amené directement à corriger du coup certaines attributions qui avaient été faites sur des critères justement morphologiques ou des critères esthétiques et qui ne collent pas avec la stratigraphie. En gros, les idées changent à la fin du 19e, au début du 20e siècle, mais au moment où les choses commencent à se mettre en place, il y a la guerre de 14, et c'est véritablement, d'un point de vue scientifique aussi, ça a été un gros bouleversement. D'une part, il y a une génération chez les scientifiques aussi, comme dans les autres domaines qui ont été sacrifiés. Donc il a fallu refournir les troupes finalement des préhistoriens. Ensuite, également, la guerre fait que la dimension internationale également de la préhistoire qui existe dès le 19e siècle, où on a des congrès internationaux, on a des collaborations vraiment internationales qui se mettent en place. L'Allemagne et tous les pays, on va dire, qui étaient du côté de l'Allemagne, vont être mis de côté. En tout cas, il va y avoir une césure entre ces différents pays, ça mettra du temps à se remettre en place, les liens remettront du temps à être retissés. Donc pour toutes ces raisons, la grande révolution du début du XXe siècle, elle va plutôt commencer à trouver ses fruits à partir des années 20-30. Et en tout cas, on passe véritablement à autre chose, à des choses beaucoup plus complexes, à l'idée donc d'une évolution qui va être parfois buissonnante, qui va être beaucoup plus complexe, avec des possibilités de retour en arrière, d'abandon. On n'est plus dans l'idée d'une trajectoire unique. Et l'idée d'une évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc à partir de là, le XXe siècle va aller vers davantage de complexité. Et puis on va arriver petit à petit vers ce qu'on appelle la préhistoire moderne, qui est celle qui déboule notamment en France après les années 1950, donc après la Deuxième Guerre cette fois-ci, et dont on est en large partie des héritiers, et qui se caractérise par une rationalisation d'un certain nombre de méthodes et de techniques qui étaient un peu intuitives, qui étaient un peu disons qu'un peu élaborée comme ça sur le tas. Et que ce soit par exemple, on pense à la. Alors, même si c'est des choses qu'on a remis en question maintenant, hein, mais par exemple, les listes typologiques et la typologie d'un auteur, d'un chercheur comme François Borde, professeur à Bordeaux, c'est une volonté de rationaliser toute cette démarche sur les outils qui avaient des noms, un peu, on va dire, dont les dénominations étaient. Des dénominations d'usage, en partie d'ailleurs héritées des marchands d'antiquité qui nommaient les objets pour pouvoir les vendre. Enfin, voilà, il y avait une première couche comme ça de typologie assez intuitive et qui était pratique à utiliser, hein, qu'on utilisait au quotidien, que les préhistoriens utilisaient au quotidien, mais qui pour un scientifique, on va dire des années 50, manquait vraiment de rigueur. Et donc on a là toute une tentative de rationalisation. C'est également tout le travail de différents auteurs, les Pécard des années, la fin des années 20, dans les années 30, puis André Leroy-Gourhan pour la normalisation de la fouille archéologique, les travaux également de Louis Méroc et de Laplace Jorretch sur le repérage des données en trois dimensions. Enfin, voilà, on est dans des choses très techniques là, mais il y a toute cette presque un instrumentarium qui se met en place, tout un ensemble de techniques pour rationaliser la préhistoire, en tout cas dans cette technique opératoire. Et donc elle est véritablement caractérisée par ça. Et cette préhistoire moderne, elle est aussi caractérisée. Jusque-là, on pourrait d'une certaine façon avoir une sorte de panthéon des grands hommes, des grands préhistoriens, qui sont des gens qui travaillent essentiellement seuls. Alors, ils fouillent avec des ouvriers, on ne fouille pas soi-même au XIXe siècle ou même au début du XXe. Mais en tout cas, ils fouillent seuls, ils ont leur collection, ils ont leur théorie. Même s'il y a beaucoup d'échanges entre tous les préhistoriens, il y a une vraie communauté qui existe. Mais à partir du moment où donc, on est sur une rationalisation des techniques, que ce soit de fouilles ou d'études, on a également l'arrivée de techniques empruntées aux sciences dures, comme le carbone 14, les datations radiocarbone, qui arrivent après en 1955. Puis des analyses de la prospection radioélectrique, enfin, on a des choses comme ça, qui font qu'on a besoin de plus en plus de techniciens, et ce qui fait que, l'époque du préhistorien seul est révolue, et on va vers l'organisation d'équipes, dans lesquelles chacun a un rôle très précis, et donc on a aussi un véritable changement sociologique de la population des préhistoriens. Et on arrive dans les années 50-60 vers ce qu'on a pu appeler l'ère des patrons, avec les deux grands patrons que sont André Leroy-Gourhan à Paris et bien sûr François Borde à Bordeaux. Mais bon, il y a également l'équipe de Toulouse, il y a les Bretons à Rennes qui ont aussi leurs propres équipes, etc., qui travaillent dans des domaines différents. Et bon, on arrive comme ça petit à petit au découpage actuel de la préhistoire. À la fin du XIXe siècle, la préhistoire veut à tout prix affirmer sa modernité. C'est véritablement l'idée qu'ont les préhistoriens. Bon, on est à la grande époque de l'utopie scientiste, avec les expositions universelles, avec tout ça. Et donc, véritablement, ils ne veulent pas être à la traîne. Ils se disent, ça c'est d'un point de vue tactique, hein, ils se disent, si on veut justement prendre le pas sur l'antiquité classique, sur la paléontologie, la géologie, sur des sciences qui sont établi depuis un peu plus longtemps que nous, il faut qu'on arrive à se positionner de façon différente. Et ce qu'ils choisissent, c'est la modernité. c'est dire, voilà, nous, on retrace les origines de l'homme, et si finalement, quand on voit tous les progrès qui se passent actuellement, on est à la fin du 19e siècle, l'électricité, le chemin de fer, la vapeur, toutes ces choses-là, pour comprendre comment ces choses-là sont importantes, il n'y a rien de mieux que la préhistoire, parce que c'est nous qui expliquons comment l'homme a évolué, donc avec cette idée d'évolution linéaire et de progrès finalement, où chaque jour apporte un progrès supplémentaire et où on va toujours vers le mieux, toujours vers... vers cette espèce de point enfin ce point c'est cet acmé que représente le progrès technique du 19e siècle. Donc ils prennent véritablement, ils se placent véritablement en position d'expliquer ça et de, si vous voulez, qui mieux qu'un préhistorien peut expliquer la modernité du 19e siècle en 1870 ou 1880 ? Personne. C'est vraiment eux qui sont à la pointe de cette question. Et c'est en grande partie, alors ils y croient, hein, je veux dire, ils disent ça parce qu'ils sont véritablement structurés par cette idée d'évolutionnisme linéaire, mais il y a aussi une position tactique de dire, voilà, nous, il faut qu'on puisse dire, on vous apporte quelque chose que ne vous apporte pas, par exemple, l'étude de Pompéi. Et cette chose-là, c'est ça, c'est comprendre la modernité. Vous pouvez aller à Pompéi, vous pouvez admirer les fresques et comprendre comment s'organise l'Empire romain, ces choses-là, comment on vit à l'époque romaine au quotidien, mais ça ne vous aidera pas à comprendre le monde actuel, ça ne vous aidera pas à comprendre l'électricité et le chemin de fer, alors que nous, préhistoriens, on peut vous expliquer ça en vous montrant très, très simplement et très, de façon très convaincante l'évolution en marche au quotidien, que ce soit à travers les ossements de l'homme préhistorique, ou à travers ses outils, à travers ses modes de vie, à travers toutes ces choses-là. Et donc, le préhistorien du 19e, il se place véritablement sur ce terrain-là. Si on regarde les questions qui intéressent davantage les préhistoriens aujourd'hui, on va retrouver des choses qui sont, en prise directe avec notre compréhension du monde. Un préhistorien, actuellement, à quoi il va s'intéresser ? Il va s'intéresser au rapport de l'homme au milieu, à l'utilisation des matières premières, à la gestion, donc, et en gros, gestion économique des matières premières. Il va s'intéresser à la gestion également des ressources animales, à la gestion des troupeaux sauvages à travers la chasse, mais, et pour le néolithicien, la gestion des troupeaux, du troupeau domestique. Il va s'intéresser à toutes ces questions qui, finalement, sont, qu'on va retrouver dans dans un intérêt au quotidien pour les questions économiques, pour les questions d'écologie, de la planète, le rapport de l'homme à son environnement, à partir de quand est-ce que l'homme, au lieu de, pas de subir, mais au lieu de s'intégrer à l'environnement et à son milieu, prend la main et se met à le modifier, le transformer. Ce sont autant d'aspects sur lesquels les préhistoriens travaillent actuellement, et qui parlent davantage à une mentalité actuelle, à une mentalité contemporaine, que ces questions d'évolution. Donc on a la préhistoire actuelle et aussi en prise avec des questions actuelles. Les préhistoriens adorent travailler sur ce qu'ils appellent les contraintes, les milieux de contraintes. On est là effectivement dans l'idée d'une société qui est coincé par des tas de choses. Bon, c'est un peu général ce que je dis, mais une société qui est coincée par des tas de choses, qui est en crise financière, qui a des problèmes de pollution, qui est en train de... une humanité qui est en train de détruire sa planète. Et donc la question de l'homme à son milieu, à sa planète, à son milieu naturel, la question de la gestion du groupe, la question d'éventuels rapports conflictuels entre les groupes ou au contraire de rapports plus harmonieux, la question du métissage entre Néandertal et Cro-Magnon, ben, toutes ces choses-là font véritablement... c'est de la préhistoire, c'est des choses qui trouvent leurs solutions et leurs arguments dans des analyses complexes, dans des données très techniques. On peut faire une thèse sur un petit ossement. Certains préhistoriens sont bien connus pour, à partir d'un squelette, avoir une cinquantaine, une soixantaine de sujets de thèse, où chaque étudiant va travailler sur un petit os. Donc c'est des choses très pointues, mais qui, une fois qu'on revient dans des discussions plus globales, plus générales, sont véritablement en prise avec des questions actuelles, qui parle assez bien, finalement, à chacun d'entre nous.